Attention, l'attention est à l'honneur aujourd'hui dans Rue des Écoles, car c'est bien une vertu scolaire que cette attention qu'on sollicite, qui manque souvent et sans laquelle aucun apprentissage n'est possible. Une attention donc à la parole de l'enseignant, au texte, au travail demandé, attention à soi et à sa propre réflexion, et c'est peut-être la plus difficile à obtenir. À ceci s'ajoute le contexte numérique qui distrait, donne le sentiment d'être assailli en permanence d'informations diverses, ce qui pose une sérieuse question éducative. Faut-il faire de l'école un sanctuaire de l'attention pure, parfaite et unilatérale, ou apprendre aux élèves à gérer les sollicitations multiples du monde connecté ? Nos deux invités, Jean-Philippe Lachaud et Yves Citon, se sont très sérieusement penchés sur la question. À leur côté, un enseignant nous livrera son témoignage. Bonsoir à tous, bienvenue dans Rue des Écoles, le magazine de l'éducation de France Culture. Au programme de cette émission également des rubriques avec nos partenaires de la presse écrite. L'actualité de l'éducation, pour commencer, c'est avec Marie-Caroline Missire, directrice de la rédaction de L'Étudiant. Bonjour.
Bonjour.
Et vous nous parlez de ?
Alors, au programme Mixité sociale, classement des collèges, sentiments religieux et une passion toute française, l'orthographe.
Et vous nous direz si vous êtes circonflexe, à tout de suite. Et puis le focus de Libby Cousteau, grand reporter à l'Express, ce sera sur l'histoire de l'éducation populaire et de la Ligue de l'enseignement avec Jean-Michel Dian à 17h40. Rue des Écoles, attachée de production, Laurence Genepin, Alexandra Malka est à la réalisation, à la technique. Aujourd'hui, Emmanuel Morse-Duncan. Pour écouter cette émission en ligne ou vous abonner au podcast, eh bien c'est sur le site de France Culture, à la rubrique de Rue des Écoles. Vous pouvez aussi dialoguer, commenter ce que vous entendez sur les réseaux sociaux. Nous vous suivons aussi sur Facebook et Twitter.
France Culture,
Rue des Écoles,
Louise Touré.
L'attention à l'école, c'est un sujet de préoccupation éternelle et quotidien des enseignants, je le disais en ouverture de l'émission, sujet de recherche aussi pour nos invités. Jean-Philippe Lachaud, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche en neurosciences cognitives au sein de l'unité INSERM Dynamique cérébrale et cognition à Lyon. Vous avez publié Le cerveau funambule, comprendre et apprivoiser notre attention grâce aux neurosciences, c'est chez Odile Jacob. Donc ça s'apprivoise, ça se travaille l'attention ?
Ça se travaille exactement, c'est pas une donnée et ça vaut le coup parce que ça embellit la vie.
Ça se travaille à l'école ?
Ça se travaille à l'école, en tout cas c'est un bon endroit pour la travailler étant donné le temps qu'on y passe.
C'est ce que, alors vous allez nous détailler hein, comment on peut travailler cette compétence en classe et aussi à la maison. Yves Citon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de littérature à l'université de Grenoble, vous avez publié Pour une écologie de l'attention au seuil, ce n'est pas le seul ouvrage que vous avez consacré à ce sujet, mais je me suis arrêtée sur ce terme, écologie.
Oui, donc l'idée, c'est un petit peu de se dire qu'on pense souvent à l'attention en termes d'un sujet qui est attentif ou non à un objet particulier. Et là, de recadrer ça en termes d'écologie, c'est de se dire que c'est des questions autant de milieux attentionnels, qu'il y a différentes couches, il y a différents écosystèmes dans ces milieux attentionnels, et que oui, il y a des sujets qui prêtent ou non de l'attention à des objets, mais il y a des attentions collectives, il y a des attentions conjointes, toute une série de niveaux superposés.
L'école comme un milieu attentionnel, individuel et collectif. Donc, et puis vous allez faire attention à ce qu'on va raconter dans cette page d'actualité puisque vous êtes aussi l'auteur d'un ouvrage sur l'orthographe. Donc ça va vous intéresser tout de suite avec Marie-Caroline Missire. Une semaine d'actualité assez typique du petit monde, du grand monde de l'éducation. Collège, grosse polémique médiatique et un peu politique.
Il fallait être discret cette semaine. Oui, la ministre Najat Vallaud-Belkacem a réuni en toute discrétion élus, collectivités et associations de parents, ça fait quand même pas mal de monde, tous partant pour expérimenter de nouvelles méthodes de sectorisation. Concrètement, 20 départements sont concernés et environ 7000 collèges. Nous l'avons déjà souligné dans cette chronique, cette expérimentation est bienvenue. Pour une fois, pas de énième grand plan imposé par le haut. Politiquement, c'est aussi assez malin. Si ça marche, et le principe du volontariat est souvent un gage de succès, la ministre pourra le mettre à son crédit dans un an, soit juste avant la présidentielle. Pas bête. Enfin, le ministère a une botte secrète dans cette affaire, un outil développé par l'ADEP, le service qui s'occupe des statistiques à l'éducation nationale, et qui permet de voir en un coup d'œil où vivent les élèves de tel collège, qui dérogent pour aller où et à quelle catégorie socio-professionnelle appartiennent leurs parents.
À propos de sectorisation, justement, un classement exclusif publié par votre rédaction, celle de l'étudiant, Marie-Caroline Missire, et rédaction qui propose pour la première fois un classement des collèges en fonction du taux de réussite au brevet. Alors, j'ai une question. N'est-ce pas tomber dans l'hyper classement très à la mode et puis surtout alimenter la peur des parents?
Eh bien, ce n'est pas notre conviction à l'étudiant, au contraire. Une première remarque d'abord, ces taux de réussite au brevet 2015, établissement par établissement, ont été mis en ligne par le gouvernement lui-même dans le cadre de l'Open Data. Donc, c'est un premier point à souligner. Notre classement donne à voir des données qui sont publiques en y ajoutant l'expertise qui est la nôtre. Ensuite, il n'y a pas de classement à proprement parler. Il n'y a pas un premier collège, un deuxième, un troisième, un quatrième, mais quatre groupes de collèges selon leur taux de réussite A, B, C ou D. Et cela permet de déconstruire justement certaines représentations qui laissent penser que les collèges de secteur doivent être évités parce qu'ils ne feraient pas réussir les élèves. Eh bien non, c'est ce que montrent bien ces données. Si je prends l'exemple du premier arrondissement de Lyon, une ville que je connais bien, le collège de secteur est classé A, comme les deux collèges privés du quartier.
Je précise, l'open data, donc ce sont ces données recueillies par les services publics qui sont rendues au public et sont libres d'accès.
Depuis quelques années, absolument. J'ajoute que le ministère travaille à un critère d'évaluation de ce qu'on appelle la valeur ajoutée des collèges, qu'il fait pour les lycées depuis longtemps, ce qui explique qu'on a énormément de palmarès des lycées dans la presse depuis plusieurs années. Cela nous permettra à l'avenir d'être plus fins dans les données que nous publions à l'étudiant.
Alors, une autre enquête publiée cette semaine par l'OPS, c'est l'enquête de Sciences Po Grenoble et du CNRS. Il l'a présentée en exclusivité chez nos confrères de France Inter mercredi soir. On va entendre le chercheur Sébastien Rocher qui a dirigé ce travail et qui était donc au téléphone sonne.
L'effet du facteur religieux qui se décompose en deux morceaux. D'abord, la particularité des personnes qui sont sans religion et qui sont athées, qui forment véritablement aujourd'hui chez les adolescents le socle de légitimité du système politique qu'on connaît aujourd'hui. Ça, on n'en parle pas suffisamment et c'est vraiment très important. Et ensuite, parmi les personnes qui ont une religion, un effet très net de l'intensité avec laquelle ils vivent leur foi. Et ça a un effet sur l'acceptation des enseignements, y compris des enseignements scientifiques à l'école, sur une acceptation de l'idée d'être français, une acceptation de l'autorité des organisations publiques. Donc ça a un effet sur énormément de facettes de leur relation à la nation et également, très important, à leurs valeurs, ce que j'appellerais les valeurs sociales, le libre choix, l'égalité homme-femme.
Enquête à lire dans l'OPS, qui met en une la ministre Najat Vallaud-Belkacem avec ce titre « L'école face à la religion ». À noter, le SNPDEN, syndicat majoritaire chez les chefs d'établissement, a indiqué qu'il fallait prendre en compte la gravité de la situation et souligne l'urgence d'une politique globale et surtout pérenne pour sauver le vivre ensemble. On en parle quand même de ce problème depuis les émeutes de 2005, souligne ce syndicat.
Mais le sujet est un petit peu passé à l'as. Pourquoi ? Bien parce que la semaine a été dominée par une autre actualité éducative.
Est-ce que vous êtes circonflexe, Louise ?
Je ne sais pas.
Parce que vous l'avez compris, cette polémique de la semaine porte bien sur la disparition programmée d'un accent, celui-là.
Pas tous.
Au point que Alain Juppé, l'ancien Premier ministre, vient de lancer une pétition pour son maintien, tout de même. Point de départ de cette affaire, un reportage de TF1 sur l'orthographe qui fait référence à une réforme de 1990, totalement oubliée, pas appliquée d'ailleurs, et reprise dans la réforme des programmes du collège. On connaît la suite, boule de neige sur les réseaux sociaux, indignation politique et roule ma poule. Pour tout vous dire, je trouve que cette polémique est assez intéressante. D'abord, elle met à jour une fois de plus la mécanique médiatique et les sujets d'éducation que chacun peut s'approprier sont parfaits pour cela. Ensuite, nous sommes le seul pays à être capable de nous écharper sur la persistance d'un accent. Je trouve qu'il y a un mélange de panache et de poésie dans cette indignation collective. Plus sérieusement, derrière cette affaire, on sent poindre quand même une véritable peur de perdre sa langue, ses repères graphiques, donc son identité, une peur de la dénaturation du langage qui fait clairement écho à une peur d'un délitement d'une certaine conception de notre civilisation. Et somme toute, c'est bien dans l'air du temps.
Comme vous le remarquez judicieusement, et pour le coup, je voulais signaler un éditorial de Johann Hufnagel dans Libération. Il est écrit en vieux François, car oui, selon lui, le français ne cesse d'évoluer. Et ce qui l'interroge, lui, c'est l'amour de l'immobilisme très présent en France. On n'a pas vraiment le temps de détailler, mais il y a eu aussi dans ce journal un dossier sur les écoles à Marseille. On en parlait récemment dans Rue des Écoles, l'état déplorable des écoles publiques. Mais dites-moi, Yves Citon, je le disais, vous avez publié il y a quelque temps, ça remonte à 1989, un ouvrage sur l'orthographe, les doctrines orthographiques du XVIe siècle que vous évoque la polémique actuelle.
Le fait que, de nouveau, ça fait depuis 1560 ou 1570 qu'on propose des réformes, mais des réformes beaucoup plus radicales que d'enlever le circonflexe, qui consisterait à transformer l'écriture française en système phonétique. Et donc, ça revient régulièrement, et on a souvent l'impression que ça se répète infiniment, à savoir, ça rendrait plus facile l'accès à l'écrit pour les jeunes. À l'époque, on disait pour les femmes, etc. Donc, on se dit, ça se répète, c'est des marronniers qui viennent soit tous les siècles, soit tous les 10 ans. Quand on regarde un petit peu plus finement, on s'aperçoit que oui, ça revient, mais ça revient toujours différemment. À savoir, vers 1560, le problème, c'était la difficulté d'apprendre à lire. 1870, c'est plutôt la difficulté d'apprendre à écrire.
Ah oui.
On s'aperçoit assez facilement qu'à partir du moment où tout le monde a eu accès à l'écrit, il a fallu que les élites trouvent une nouvelle excuse pour affirmer leur pouvoir, et que c'était, oui, tout le monde peut écrire, mais seulement nous pouvons écrire en respectant toutes les choses bizarres de l'orthographe française. Donc, on peut se dire, ça fait un siècle que ça mouline. Aujourd'hui, c'est passé quelque chose de nouveau quand même depuis une quinzaine d'années, c'est que le bon Dieu a inventé des traitements de texte, et que dans ces traitements de texte, il y a des correcteurs orthographiques, et donc que ça pourrait à la fois uniformiser le langage écrit, à la fois peut-être remettre tout le monde à un certain niveau. Et ce qui m'étonne, c'est que, alors moi j'ai pas vraiment suivi ces dernières polémiques qui sont plutôt des effets d'envoûtement médiatique assez passagers et pas forcément très profonds, mais il y a une réflexion effectivement à faire sur le rapport orthographe-machine, de passer par des correcteurs orthographiques, ce que font pas mes étudiants. Moi, je sors d'un mois de correction, là, j'ai des milliers de pages de correction de travaux de Master 2, des gens qui travaillent en lettres en Master 2, qui sont des gens brillantissimes. Les nouvelles générations me semblent beaucoup plus intelligentes que les nôtres, sauf qu'ils font pas attention au fait de mettre des S, etc. Alors que des correcteurs orthographiques quand même bien perfectionnés aujourd'hui, même du point de vue de la grammaire, vous disent où vous avez raté un S.
France Culture.
Rue des Écoles.
Louise Touré.
L'attention à l'école, un sujet de préoccupation très contemporain, mais aussi peut-être très ancien. Mona Ozouf se saisissait de la question au micro d'Alain Finkielkraut sur notre chaîne. C'était le 16 mai dernier dans Réplique. Écoutez ce que dit l'historienne.
Désormais, ce qui est atteint, c'est la capacité d'attention, de concentration des élèves. L'attention dont Alain disait que c'était la faculté intellectuelle la plus précieuse.
Et Simone Veil après lui.
Et qui déterminait toutes les autres. On sait bien maintenant que l'essentiel de l'énergie d'un professeur ou d'un instituteur est d'obtenir un peu de silence, un peu d'attention, un peu de concentration.
Oui. Un peu de concentration. Est-ce que c'est vraiment le grand problème aujourd'hui, le grand problème pour l'école, et peut-être pas seulement Jean-Philippe Lachaud.
Pour l'école, certainement. Après, pour la science, c'est pas un problème si récent, hein, puisque ça fait au moins une bonne centaine d'années qu'on s'y intéresse. Au moins, si on revient aux racines de la psychologie moderne, psychologie cognitive, William James, même encore avant Alain et Simonel disaient que l'éducation de l'attention, pour lui, c'était l'éducation par excellence. Donc c'est un vieux thème sur lequel on commence à connaître beaucoup de choses en termes de mécanique cérébrale, et ce qui permet de dépassionner un petit peu le débat, puisqu'on est en train d'avoir une transition de phrases du type « si on ne fait pas attention, c'est qu'on ne veut pas » ou « c'est qu'on est flemmard », jusqu'à des considérations beaucoup plus techniques, en révélant un petit peu les forces cachées qui font qu'il est finalement pas si facile d'être concentré en cours.
Alors, beaucoup de clichés circulent sur l'attention, vous le disiez. Pourtant, ça fait longtemps qu'on sait que cette attention pure et parfaite, qui est souvent demandée aux élèves, qui est l'image du bon étudiant qui sait se concentrer, elle est particulièrement difficile à obtenir. Elle n'est pas très naturelle.
En fait, on est tout le temps attentif à quelque chose. À chaque moment, on sélectionne une partie des informations qu'il y a autour de nous, donc c'est une forme d'attention. Ce qui est plus difficile, c'est de stabiliser son attention. Alors, il faut bien comprendre, en discutant avec des enseignants, j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'incompréhension entre l'élève et l'enseignant. L'élève arrivant en classe en imaginant qu'on attend de lui qu'il soit attentif tout le temps, du début de la classe jusqu'à la fin, avec une attention parfaite. En fait, on se rend compte que c'est pas tout à fait ça. L'enseignant, il a besoin plutôt d'une synchronisation des attentions de ses élèves à certains points clés. Et rien que le fait de mettre ça, de l'expliquer, de le dire explicitement aux élèves, je n'attends pas de vous d'être attentif constamment avec la plus grande intensité, mais seulement à certains moments, déjà, on se rend compte que ça aide.
Quand on étudie, quand on lit, quand on est concentré, on se laisse distraire et parfois on culpabilise. Pourtant, si on vous lit, on comprend que c'est normal de se laisser distraire. Ça ne fait pas de nous, de vous, de moi, un mauvais étudiant.
Non, le fait de se laisser distraire ou le fait de penser qu'on peut avoir une attention parfaite, c'est ancré dans un mythe de toute puissance, comme quoi on serait au centre de son cerveau en train de tout contrôler. C'est pas comme ça que ça marche. Le cerveau, c'est un ensemble de systèmes qui vont orienter l'attention selon des critères différents, qui vont être en compétition la plupart du temps, et ce qui génère ces phénomènes d'inattention, de distraction par une porte qui claque ou par simplement un petit message sur un téléphone. Vous avez une partie de vous à un moment dans votre cerveau qui déclare que c'est important, et c'est pour ça que l'attention s'oriente. Donc finalement, la maîtrise de l'attention, elle va plutôt passer par une prise de conscience de ses forces, du fait qu'elles existent, et puis apprendre un petit peu à vivre avec, comme un marin sur un bateau apprend à vivre avec le vent et les courants.
Adrien Guinemer, je vous salue. Vous êtes enseignant de mathématiques. Vous faites face à des classes, une de sixième, une de troisième. Le vrai problème est-il la synchronisation de l'attention dans la classe?
Je ne sais pas si c'est le vrai problème, mais il est certain que c'est un des problèmes, et qui m'arrive souvent en cours, d'attirer l'attention des élèves, que c'est maintenant un moment clé et déterminant, et j'essaye de le faire avec parcimonie.
Yves Citon, le travail de l'enseignant, c'est de rendre les élèves attentifs. Alors on a vu, c'est déjà compliqué hein, comme domaine l'attention, mais je voudrais avec vous aborder la question que je soulevais en préambule. Est-ce que aujourd'hui, dans un monde où notre attention est tout le temps appelée par diverses stimuli, en particulier ceux du monde numérique, des téléphones, de l'ordinateur, on doit apprendre cette attention relativement pure qu'on devrait pouvoir préserver dans ce qui serait un sanctuaire de l'attention, qui pourrait être l'école, qui peuvent être aussi les bibliothèques? Ou alors, est-ce qu'on doit apprendre à gérer ces multiples sollicitations? Est-ce que ce serait ça le travail de l'enseignant? La question est totalement ouverte.
Oui, totalement ouverte. Ma réponse sera totalement ouverte aussi, parce que j'ai envie d'y répondre en mentionnant deux auteurs, deux professeurs, c'est des femmes aux États-Unis qui font des livres assez célèbres, qui tiennent des positions qui me semblent symétriquement inverses, et pourtant les deux, des deux côtés, il me semble qu'il y a quelque chose à retenir. Alors rapidement, il y a quelqu'un qui s'appelle Shelley Turkle, qui vient de faire un livre qui s'appelle « Revendiquer la conversation », qui a tout un chapitre sur l'éducation, dans laquelle elle propose de penser que justement, la salle de classe doit être un sanctuaire. Qu'est-ce qui se passe lorsque on laisse les étudiants ou les élèves arriver avec des machines digitales, des machines numériques? Ils font plusieurs choses en même temps. Et ça, c'est pas forcément qu'ils sont inattentifs, mais ils sont pas assez attentifs pour qu'une expérience très particulière, qui est l'expérience pour elles de la conversation, puisse se tenir dans la salle de classe. Et donc, elle fait quelques enquêtes et elle s'aperçoit que les étudiants eux-mêmes disent que lorsqu'ils voient quelqu'un dans la salle de classe qui est en train de faire un SMS, eux-mêmes, ça les distrait et ça désacralise. C'est pour ça que vous avez parlé de sanctuaire. Elle ne parle pas de sanctuaire, mais il y a quelque chose de sacré qu'il faudrait garder. Et donc, il faudrait protéger un espace. Moi, je reprends de Gilles Deleuze la notion de vacuole. Il faudrait protéger des vacuoles de l'impératif de communication. Et elle dit, même si les élèves s'ennuient de temps en temps, parce qu'ils ont l'habitude d'être stimulé par plein de choses, eh ben, il faut apprendre cet ennui, parce que cet ennui a du bon. C'est souvent en s'ennuyant qu'on va penser à d'autres choses, etc. Donc, c'est pas forcément d'être toujours focalisé sur ce que dit le professeur, mais même si on n'est pas focalisé, rêver ou rêvasser sans un SMS, c'est plus émancipant que de lire ces SMS. Ça, c'est la première position. L'autre position, c'est quelqu'un qui s'appelle Catherine Hales, H-A-Y-L-E-S, qui enseigne à Duke University, qui, elle, dit, en fait, il y a toute une marge d'intensité attentionnelle. Il y il y a ce qu'on appelle la deep attention, l'attention profonde, et il est très important que l'école enseigne à pratiquer cette attention profonde, mais il y a quelque chose d'autre, une autre polarité qu'elle appelle l'hyper-attention, qui consiste justement à savoir, alors Jean-Philippe a fait des très belles choses là-dessus, à savoir distribuer son attention avec des temporalités différentes, de façon à pouvoir être attentif à plusieurs choses en même temps. Et ce que dit Hale, c'est qu'on a absolument besoin tout le temps pour survivre d'être attentif, d'avoir plusieurs couches attentionnelles qui nous laissent attentifs à plusieurs choses, et que de laisser les machines numériques entrer dans la salle de classe, eh bien, c'est apprendre aussi quelque chose d'autre qui est aussi important que l'attention profonde, c'est comment d'abord gérer ces machines, parce qu'on vit avec elle, et donc le lieu de l'enseignement doit être un lieu aussi d'apprentissage à utiliser ces machines de façon intelligente, et aussi à gérer la multiplicité de nos niveaux attentionnels. Et là, il me semble qu'il y a quelque chose de très vrai dans ce qu'elle nous dit, à savoir que moi, j'ai envie de concevoir la salle de classe. Moi, j'enseigne au niveau plutôt du master et de la licence, donc c'est très privilégié. Je n'ai pas vraiment besoin de faire de discipline, donc je ne prétends pas parler au nom de tous les enseignants. Mais en tout cas, à mon niveau, il me semble que ce qu'on a à faire, c'est à aider les étudiants à développer leur curiosité. L'accès aux connaissances, ils peuvent l'avoir à travers ces machines. En revanche, ces machines et les algorithmes qui les dirigent, elles ont souvent tendance à nous enfermer dans ce que nous avons déjà cherché, soit nous, soit nos pareils. Et une fonction de la salle de classe, c'est de stimuler la curiosité pour aller chercher quelque chose au dehors de ce que nos machines nous aident à trouver.
Oui,
et ça présuppose justement qu'on ait rapport à ces machines et puis qu'on les exclut pas comme quelque chose de non sacré ou de sacrilège dans un lieu sacré.
Jean-Philippe Lachaud, sur ce que nous disions sur ces compétences attentionnelles à travailler, bien, dites-nous comment les travailler si on décidait de les travailler en classe.
Déjà, juste rebondir très rapidement sur ce que disait Yves, je pense qu'il a tout à fait raison en disant qu'il ne faut pas distinguer une forme d'attention qui serait l'attention focalisée longue sur un objet qui serait la meilleure et une attention plus distribuée qui serait mauvaise. Par contre, moi je suis frappé de voir que le système scolaire favorise par le type d'épreuves qu'il y a, qui sont souvent des épreuves longues dans les concours, une attention des gens qui ont une capacité à se concentrer très longuement et que je retrouve parfois en discutant avec des gens d'entreprise qui se retrouvent dans des situations de grand inconfort face à des environnements beaucoup plus dynamiques où le téléphone sonne tout le temps, il faut sans arrêt passer d'une chose à une autre et ils ne sont pas habitués à ça.
L'école, en même temps, c'est peut-être encore le seul endroit où on va apprendre à se concentrer profondément puisque ailleurs, la société n'attend pas ça, le spectacle, le loisir continuel, les sollicitations numériques nous font sautiller d'un point à l'autre. Et il faut bien qu'à un moment, l'attention apprenne à se fixer.
Alors ce qu'il faut effectivement, à mon avis, c'est amener l'enfant à ne pas avoir un mode privilégié d'attention, à être à l'aise dans différents régimes, celui de l'attention focalisée, donc ce qu'on appelle la concentration sur un objet pendant longtemps, mais qu'il soit également à l'aise sur une attention très dynamique, mais qui ne doit pas être confondue avec la dispersion, qui est souvent... La confusion est facile, hein, c'est-à-dire quand on voit un jeune ado qui est sur son téléphone, en train ensuite de regarder la télévision, plus ou moins en même temps de faire 15 choses, en fait, si on regarde ce qu'il fait réellement, c'est très automatique. Il n'y a pas vraiment d'attention, il est vraiment plus dans un mode de réaction, c'est plus une phase de distraction, ou aussi la bascule d'une activité à une autre n'est pas décidée de lui-même, mais elle est plus décidée par la sonnerie de téléphone. Ce qui est très différent d'une attention vraiment très fluide, où on est capable de passer très rapidement d'un mail à un coup de téléphone, puis de revenir sur le mail de façon extrêmement efficace, qui est beaucoup plus difficile à maîtriser. Donc ça, c'est tout l'enjeu. Et à mon avis, effectivement, ça peut s'apprendre à l'école, puisqu'on y passe quand même pas mal de temps.
Et comment ?
Nous, on essaie de développer un projet qui s'appelle le projet Atoll, oui. Attentif à l'école. Donc, on a un millier d'enfants qui sont en train de tester ce programme, où en fait, on s'appuie sur ce qu'on appelle la métacognition, c'est-à-dire la prise de conscience de son propre fonctionnement mental. Donc, expliquer aux enfants comment ils fonctionnent, comment fonctionne l'attention. Ça leur permet déjà de déculpabiliser, de se rendre compte qu'on a tous des problèmes d'attention, les adultes aussi. Et ça leur permet un petit peu de désigner, de mettre un mot, de dire « Ah bah tiens, voilà ce qui m'arrive et voilà ce qui se passe dans mon cerveau ». À partir de là, on développe une sorte de petite stratégie, une boîte à outils, hein, un ensemble de stratégies cognitive que l'enfant apprend à maîtriser, qui lui permet de dire bah voilà, s'il y a un bruit derrière, si je suis orienté, mon attention, je tourne la tête, alors c'est tel type de distraction, je mets en place telle solution. Si je suis distrait par mes pensées ou par mes émotions, telle autre distraction, telle autre solution, etc. Donc c'est ça qu'on essaie de faire, et à un âge assez jeune, puisque pour l'instant, on vit surtout l'école élémentaire jusqu'au début du collège, avant un petit peu l'exposition, si vous voulez, aux nouvelles technologies, au téléphone, etc.
Je préférais l'orage dès qu'il faisait beau. C'était comme une ombre au tableau. Je voyais un naufrage derrière chaque bateau. Je préférais l'hiver, les couleurs de l'été. J'ai jamais pu les encadrer. J'étais le solitaire, le veuf, l'inconsolé. Oui, mais comme a dit le peintre à l'oreille coupée, avant de s'éteindre, avant de sombrer, mon amour, la tristesse durera toujours. J'aurais beau me teindre, porter son chapeau, quand tu viens m'étreindre, je n'y crois plus trop. Mon amour, la tristesse a passé son tour. J'aimais les natures mortes, j'aimais les clairs obscurs. Je peux plus les voir en peinture. Le diable les emporte, ils ont quitté mes murs. Tous mes Saint-Sébastien, mes croquis décorchés, je les ai rangés au musée. Je pensais que plus rien jamais n'arriverait. Oui, mais comme a dit le peintre à l'oreille coupée, avant de s'éteindre, avant de sombrer, mon amour, la tristesse durera toujours. J'aurais beau me teindre, porter son chapeau, quand tu viens m'étreindre, je n'y crois plus trop. Mon amour, la tristesse a passé son tour.
Alex Baupin sur France Culture, vous écoutez Rue des Écoles. Nous ne parlons pas d'amour, nous parlons de l'attention, une vertu scolaire. On a décidé cette année de faire des émissions sur les vertus scolaires après avoir parlé de la bienveillance. C'est l'attention aujourd'hui avec des chercheurs qui ont travaillé sur la question, Jean-Philippe Lachaud, Yves Citon et un enseignant, Adrien Guinemer. En lisant un petit peu les recherches sur l'attention, il y a une expérience qui est très rigolote et dont je voulais parler, c'est celle du gorille. Vous voyez à quoi je fais allusion. L'attention hyper focalisée n'est peut-être pas la meilleure chose tout le temps. Qui veut en parler, Jean-Philippe Lachaud, Yves Citon?
Jean-Philippe, connais-tu ça?
Jean-Philippe Lachaud.
Le film du gorille, en fait, c'est un film qu'on trouve sur Internet, qui a été mis au point par Dan Simmons, qui est un spécialiste de l'attention aux États-Unis, et où vous voyez 6 personnes devant un ascenseur, 3 habillés d'un t-shirt noir et 3 habillés d'un t-shirt blanc. Les 2 équipes ont chacune un ballon, et les joueurs habillés en blanc vont se passer un ballon. Et en fait, le but, c'est simplement de suivre le nombre de passes que se font ces joueurs-là. Les joueurs noirs font également de même avec un autre ballon, et à la fin du film, qui doit durer une minute à peine, on demande au spectateur: est-ce que vous avez vu quelque chose de normal? Et une grande majorité des spectateurs disent non, sont capables de donner le nombre de passes de façon correcte, mais n'ont rien vu de spécial. On repasse le film au ralenti et on voit au milieu qu'une 7e personne traverse la scène déguisée en gorille, fait face à la caméra, se tape sur la poitrine et disparaît. voilà, sans que la majorité des spectateurs ne l'aient vu. C'est aussi ce qu'on trouve, vous avez de nombreux crashs aériens. Où la boîte noire révèle qu'il y avait une alarme qui sonnait très fort et que le pilote n'a pas vu, n'a pas entendu parce qu'il était, il avait quelque chose d'autre en tête, il était occupé à autre chose et qu'il privilégiait donc d'autres informations. Donc effectivement, cette attention très focalisée, elle n'est pas tout le temps optimale, hein. Elle l'est parfois, mais parfois elle nous aveugle, elle nous masque une partie de la réalité. Et donc d'où l'intérêt de pouvoir jongler entre ces deux modes, attention très focalisée, une attention plus diffuse, plus ouverte aussi.
Ce qu'on voit aussi dans les consignes scolaires qui sont données, c'est que les élèves ont du mal à choisir. Vous donnez un exemple très parlant, Jean-Philippe Lachaud, une classe de CE2, on dit de relire avec soin sa copie. Eh bien ça, c'est déjà une consigne trop floue. Pourquoi ?
Oui, alors effectivement, on se rend compte que même dans l'hypothèse d'un élève parfaitement concentré, qui est très motivé par ce qu'il fait, il y a encore des sources, même dans l'exercice même dans ce qu'on lui demande, des sources de conflits, des causes possibles pour que l'attention se perde. Alors l'exemple de la relecture, c'est si on me demande de relire un texte, une rédaction par exemple que j'ai écrite, je vais commencer, mettons, sur le style, donc je vais regarder est-ce que c'est bien écrit, puis tout d'un coup je vais voir une faute d'orthographe. Alors hop, ça va attirer mon attention, et à partir de là, pendant 4-5 lignes, je vais commencer à chercher les fautes d'orthographe. Donc on voit qu'en fait j'ai changé d'intention, et du coup ce qui va être important pour mon cerveau, au moment où mon œil se pose sur les lignes, ça va être maintenant les terminaisons, etc. Et je ne vais plus du tout voir le style. Et à la fin, je vais peut-être rebasculer sur
le... problème de l'attention, c'est l'intention.
C'est l'intention, souvent. Donc, justement, dans le programme ATOL, qui est un petit peu... qui est tiré de ce mode d'emploi, là, le cerveau funambule, qui est de dire, essayez d'être au clair sur votre intention. Une seule intention à la fois, pour quelques minutes. Et puis, une fois que c'est fait, très bien, c'est réussi, on passe à autre chose.
Atoll pour l'attention à l'école. On va continuer à être dans la salle de classe. C'est un espace attentionnel qui se structure d'une façon conventionnelle. C'est peut-être ce qui en fait un espace à part, l'espace de l'attention, Yves Citon. Et pourtant, c'est un peu un impensé, cette structuration.
C'est à la fois un impensé, à la fois une sorte de manichéisme qu'on a très bien entendu dans votre petit insert tout à l'heure avec Mona Ouzouf, qui est quelqu'un de remarquable, qui répondait à Alain Finkielkraut, lorsqu'il parlait de capacité de concentration et obtenir un petit peu de silence. Et ça a l'air absolument trivial et évident de dire, oui, qu'est-ce qu'on veut en classe? On veut que les étudiants ou les élèves soient concentrés et qu'il y ait un peu de silence. Ce qui me frappe, c'est justement, c'est un petit peu les gorilles qu'on voit pas là derrière, à savoir que ça présuppose un certain rapport entre enseignants et étudiants qui est très particulier, qui fait que la parole ne va que dans un sens. Être attentif pour eux, c'est se taire et prendre des notes ou écouter ou assimiler des choses qu'on leur a dites. Et que ce modèle-là, qu'est-ce qu'il nous dit? Comme l'a très bien dit Jean-Philippe Lachaud tout à l'heure, la distraction, c'est pas ne penser à rien. La distraction, c'est être attentif à autre chose. Et donc, dans la salle de classe, il y a une structure d'autorité qui dit que vous devez être attentif à ce qui sort de la bouche du professeur, vous devez rester silencieux pour assimiler ce qui sort de la bouche du professeur, et ça serait de la bonne attention, et donc le reste, ça serait de la mauvaise distraction. Une espèce de manichéisme, être concentré, c'est bien, et être distrait, c'est mauvais, être distrait, c'est ne pas être attentif, c'est tout ça qu'il y a à remettre en question. Je parlais tout à l'heure de Shelley Turkle, son livre s'appelle « Revendiquer la conversation ». Le modèle qu'elle a là derrière, c'est de dire... on n'est pas seulement à fournir un objet d'attention. Tout à l'heure, je vous parlais d'objet d'attention ou de milieu attentionnel. On conçoit la salle de classe, on la réduit à donner, on fait même pas vendre encore, aux États-Unis on fait vendre ça parce que les gens payent pour aller à l'université, mais c'est donner un objet attentionnel sur lequel les étudiants devraient concentrer leur attention comme si c'était un individu sujet face à un objet. C'est pas ça une salle de classe. Si on se fatigue à se déplacer, à déplacer nos corps pour se retrouver une vingtaine ou une trentaine dans une salle, c'est parce qu'on échange quelque chose. Et le modèle de la conversation me semble beaucoup plus intéressant, de se dire on n'est pas dans l'attention à un objet, on est dans ce qui s'appelle l'attention conjointe. Qu'est-ce que c'est que l'attention conjointe? C'est que chaque humain prête son attention à l'attention des autres. Il sent et il réagit en fonction de la façon dont les autres sont attentifs. Et si on conçoit la salle de classe de cette façon-là, il y a toute une série de problèmes qui se posent assez différemment, en particulier dans le rapport à l'autorité, etc.
Tout en se mettant dans un rapport différent au savoir, puisque l'enseignant sait ce que les élèves ne savent pas. Il y avait un rapport de transmission.
Mais qu'il y a un rapport de partage. Et oui, l'enseignant sait certaines choses que les élèves ou les étudiants ne connaissent pas. En même temps, les étudiants arrivent avec des problèmes, avec des questions dont l'enseignant a beaucoup à apprendre. Il ne s'agit pas de mesurer les temps de parole pour que chaque étudiant parle autant que le professeur. Ce n'est pas du tout ça la question. La question, c'est d'être attentif au questionnement ou d'être attentif à l'inattention, à la distraction des étudiants en se disant, tiens, qu'est-ce que ça me dit le fait qu'ils soient distraits maintenant ou qu'est-ce qu'ils peuvent trouver sur Internet alors qu'ils sont en train de pianoter dont pourrait bénéficier la salle ou alors de leur demander.
Moi, j'ai plein d'étudiants. Alors pourquoi les élèves sont inattentifs? Parfois, c'est parce qu'il fait chaud, parce que
tout
la
à fait.
Fenêtre est ouverte. Et
c'est des milieux attentionnels.
Tout inclure dans le cours. Mais ça, l'écologie de l'attention. Mais tout de même, et là je me tourne vers Adrien Guinemer qui est enseignant, ce dont on peut s'apercevoir quand on fait cours, c'est que il n'est pas très difficile de focaliser l'attention sur soi, sur sa parole, son explication. Finalement, on peut tout à fait obtenir des élèves du regard de l'attention. Ce qui est plus difficile, c'est d'apprendre aux élèves à focaliser leur attention sur eux-mêmes, sur leur travail, leur réflexion, qu'ils apportent du soin, par exemple, à leur copie, par exemple, en corrigeant leur orthographe. Est-ce que vous partagez cette conception de l'attention et de ses difficultés en classe, Adrien Guinemer?
Je pense qu'on on oublie souvent d'appréhender ces questions-là et on oublie le fait que, certes, on pourra peut-être exiger pendant 55 minutes d'un élève qu'il soit complètement attentif ou focalisé sur nous. On doit aussi penser à plus tard et penser que plus tard, il ne sera pas à l'école et il devra lui-même se focaliser sur certains problèmes. Je vois aussi un autre problème au niveau de l'école, avec le rythme scolaire qui est imposé aux élèves et aux enfants en France. Vous ne pouvez pas demander, à mon avis, enfin moi je ne demande pas ça à mes élèves, de rester attentif 55 minutes, de rester ensuite calme pendant un interclasse de 5 minutes, ensuite d'enchaîner un nouveau cours où ils devront être attentifs pendant 55 minutes, puis une récré où ils devront surtout pas trop chahuter, avant de sortir en pause déjeuner où il faudra énerver personne. Je crois que c'est utopique et c'est pourtant ce qui se passe aujourd'hui dans l'école. Et c'est certain que l'élève aura du mal ensuite à se concentrer sur son travail s'il n'a pas pu évacuer une certaine énergie.
Jean-Philippe Lachaud, vous parlez de régime attentionnel dans votre ouvrage. Alors celui des enfants et des adolescents est peut-être un peu différent de celui des adultes. Et surtout, la demande, enfin l'exigence envers le jeune public est beaucoup plus forte en termes d'attention. Est-ce que c'est adéquat?
Ce qui me frappe, c'est que ce que ça évoque en moi, c'est cette idée qu'on est quand même dans une société sédentaire. Majoritairement sédentaire, et qu'il y a quand même dans l'école une éducation à la sédentarité, il faut bien le voir. C'est-à-dire qui peut être un peu violente. Le fait d'obliger les enfants très jeunes à rester assis pendant de longues durées, sans trop bouger, c'est assez violent parce que, voilà, adulte, on reste beaucoup assis. Donc il y a ça. Après, effectivement, il faut tenir compte de l'enfant, de son âge. On a fait une étude là où on a mesuré la capacité de concentration des enfants en fonction de leur âge. Alors sachez que elle évolue de façon très spectaculaire entre 6-7 ans et puis la fin de l'adolescence, début de l'âge adulte, vers 20 ans, il y a un pic vers 20-30 ans à peu près. Donc c'est sûr qu'en termes de stabilité de l'attention, on va demander des choses très différentes, mais je pense que tout enseignant le sait, à des enfants très jeunes et puis à des plus grands, en essayant de rendre chacun un petit peu plus autonome, un peu plus au fait de sa propre attention pour arriver à la discipliner.
Est-ce que pour être plus attentif et mieux attentif, il faut varier les séquences?
Oui, d'une certaine façon. Alors, c'est l'éternelle question aussi. La variété, c'est sûr, va être bien vécue par le système attentionnel. On sait qu'il y a un circuit qui s'appelle le circuit de récompense dans le cerveau, qui est très puissant pour orienter le comportement et l'attention et qui aime bien la nouveauté. Donc, ça va aider. Cela dit, ça nous amène à un vieux débat qui est qui doit s'adapter? Est-ce que c'est à l'enseignant de s'adapter ou est-ce que c'est à l'enfant de s'adapter? Parce que l'enseignant, à la limite, peut dire, on vit dans un monde numérique, les enfants aiment les jeux vidéo, donc moi, je vais faire mon cours sous forme presque de jeux vidéo. Comme ça, au moins, je vais attirer leur attention. On va gamification, le cours pour le rendre plus intéressant. À mon avis, c'est une voie sans issue parce que déjà, on constate que l'enfant lui-même va un jour être lâché dans le monde sauvage de la vie adulte où tout ne sera pas gamifié pour lui, donc il devra maîtriser son attention de toute façon. Et puis après, déjà, c'est extrêmement difficile de rendre intéressant un cours de tout gamifier. Et puis, ça crée des zones d'ombre. C'est-à-dire que si les autres cours ne suivent pas, par contraste, ils vont paraître extrêmement rébarbatifs et ça va être très difficile. L'approche qu'on développe, par exemple, avec Atoll, c'est de considérer que l'enfant n'a aucune prise sur son environnement, sur son professeur, sur la salle de classe, etc. Donc, on part du principe que c'est à l'enfant, on va lui donner les moyens de s'adapter lui. Après, peut-être que des enseignants qui suivent le programme Atoll, qui voient un petit peu ou qui lisent le type de livre qu'on peut écrire, on peut avoir une prise de conscience et dire « Tiens, j'ai peut-être intérêt à faire ça un petit peu différemment. » Mais a priori, quand même, on part toujours de l'élève autonome qui se prend en charge et qui va prendre en charge sa propre attention.
Adrien Guinemer, enseignant, vous souhaitez réagir?
Oui, je souhaitais réagir tout à l'heure au niveau des périodes d'attention. Moi, pour devenir professeur, j'ai passé des concours qui demandent énormément de concentration sur des temps longs, comme vous le disiez tout à l'heure.
Comme l'agrégation,
par exemple. Et c'est quelque chose dont j'ai beaucoup souffert. Mais j'ai su accepter les stratégies que je mettais en place, qui étaient de me lever régulièrement, peut-être toutes les demi-heures, tous les trois quarts d'heure, d'aller aux toilettes plus souvent qu'à mon tour pendant les épreuves pour pouvoir souffler. Et ça me permettait d'ailleurs souvent d'avoir un recul sur les questions et les problèmes mathématiques qui m'étaient posés, à avoir en quelque sorte un nouveau souffle. Et c'est des stratégies, je pense, qu'on n'enseigne pas assez, et je me fais le reproche à moi-même aussi. C'est-à-dire que personne ne m'a jamais dit que dans les 6 heures que j'avais, il était peut-être bon pour moi de ne pas rester 6 heures assis sur ma chaise. Et que même si des camarades et des élèves sont capables de le faire, il n'est pas dit que leur efficacité et leur productivité soient meilleures que la mienne. Et ça, j'ai fini par l'accepter et m'en rendre compte. Et j'essaye avec mes élèves d'en tenir compte aussi.
Car le régime attentionnel, c'est aussi quelque chose de singulier et d'individuel. Yves Citon, il ne nous reste pas beaucoup de temps et il y a un sujet que je voulais aborder avec vous. On va peut-être un petit peu sortir de la salle de classe. Dans votre ouvrage, vous parlez d'envoûtement médiatique, quelque chose qui distrait l'attention. C'est ce qui s'est passé cette semaine. On y revient avec l'orthographe. Le sujet a tout emporté et pourtant, les débats sont nombreux. La réforme du collège est encore contestée. La carte scolaire scolaire voilà, va être révisée. On en parlait dans les actualités. Comment expliquer ces phénomènes récents de captation massive de l'attention sur des sujets très précis et très éphémères?
Alors, est-ce que c'est récent? C'est autre chose. Hein. Moi, je lis des journaux de la fin du XVIIIe siècle où les frasques d'une actrice faisaient l'objet de la parole de tout le bon monde parisien. Alors, peut-être que les paysans au fin fond du Poitou n'étaient pas au courant de ça, mais je crois que ces effets qu'on appelle envoûtement médiatique avec quelques-uns, ils présupposent d'abord des réseaux de diffusion des informations, des médias, et un effet, justement, d'envoûtement, une sorte de magie qui va avec ceci, qui fait que on a tendance à parler de ce dont on parle. C'est comme on dit souvent pour l'attention. Donner de l'attention, c'est une façon aussi de recevoir de l'attention. L'attention appelle l'attention. Ça va non seulement dans les relations intersubjectives, mais aussi si mon voisin fait attention à quelque part, si maintenant vous regardez tous la porte, eh ben je vais regarder la porte parce que je me dis qu'il y a quelque chose d'intéressant à regarder du côté de la porte. Donc ça, c'est des phénomènes justement d'envoûtement collectif. Et pour ceci, il me semble qu'il faut de nouveau réintégrer ce qui se passe dans la salle de classe, qui est vraiment de l'attention conjointe. J'en parlais tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que l'attention conjointe? C'est on est en présence, on est dans le même moment et on est sensible à ce à quoi les autres font attention. C'est pas forcément dans le même lieu, parce qu'on peut faire ça par Skype, on peut faire ça par d'autres choses. Mais en tout cas, il y a un phénomène de coprésence attentionnelle. Ça, c'est l'attention conjointe. Et la salle de classe, c'est d'abord ça. À l'intérieur d'une salle de classe, il y a aussi un étudiant qui fait un petit travail ou qui se concentre sur un bout de texte. Quand on fait une explication de texte, eh ben, il regarde. Donc ça, c'est au niveau de l'attention individuelle. Et il y a toujours qui flotte autour de nous ou par-dessus nous, ces voûtes. Ces voûtes médiatiques qui fait que, eh ben, lorsqu'il se passe des événements un petit peu sanglant, eh ben, tout le monde va en parler un petit peu dans les journaux, à la télévision, dans les réseaux sociaux, et forcément, ça va résonner aussi en classe. Donc, c'est l'articulation de ces différents niveaux, ces différentes échelles de résonance attentionnelle, qui sont très souvent collectives et qui ne sont que de façon très, très mutilante individuelle, qu'il faut prendre en compte. Et ce qui me gêne beaucoup dans les discours, un petit peu, qu'on a entendu tout à l'heure, sur les déplorations d'une jeunesse distraite, c'est qu'on individualise et qu'on culpabilise, la même chose que pour l'orthographe, on parle de faute d'orthographe, vous parlez de vertu de l'éducation, scolaire. Vertu scolaire. Pour moi, le problème, c'est la vertu, non pas au sens de puissance, parce que virtus, c'est la puissance, mais la vertu au sens bien et mal, manichéisme, ceci est bien, ceci est mal, alors qu'il y a des choses qui sont plus ou moins bonnes, plus ou moins mauvaises.
À lire donc Pour une écologie de l'attention, c'est publié au Seuil, c'est de vous, Yves Citon, et à lire également Pour apprendre à maîtriser un petit peu mieux ses capacités d'attention, à connaître son régime attentionnel, le cerveau Funambule de Jean-Philippe Lachaud, c'est chez Odile Jacob. Merci également à Adrien Guinemer d'avoir été avec nous. On passe à la dernière rubrique de l'émission. Dernière rubrique de l'émission en partenariat avec L'Express et avec Libby Cousteau. Bonsoir Libby.
Bonsoir.
Aujourd'hui, vous êtes avec un invité.
Absolument, je suis avec Jean-Michel Gian. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes journaliste, politologue, producteur à France Culture, auteur d'un livre surtout sur la Ligue de l'enseignement, L'Utopie citoyenne, un livre passionnant, tout à fait opportun à l'heure où les débats sur la laïcité sont vifs, dans les médias et au sein de la gauche. Alors la Ligue de l'enseignement fête ses 150 ans, c'est un monument qui a façonné une partie de l'histoire de France. Tout commence avec Jean Massé, un républicain fervent, journaliste qui, par peur des menaces qui pèsent sur la République au moment de l'élection de Louis-Napoléon Bonaparte en 1848, souhaite monter à l'assaut pour défendre cette fragile République. Alors il commence par distribuer une feuille de chou pour alerter, mais il sera condamné à l'exil lorsque Napoléon le Petit réussit son coup d'État. Mais Jean Massé ne dételle pas, dans ce petit village du Haut-Rhin où il est exilé, il crée une bibliothèque, un journal avec le soutien de Jules Verne, le magasin d'éducation et de récréation, dont le credo est « apprendre en se divertissant ». En 1866, il lance enfin la Ligue de l'enseignement qui vise à rassembler tous ceux qui, dans le pays, veulent combattre l'ignorance. Concrètement, des cercles locaux vont voir le jour, souvent sous l'impulsion de francs-maçons d'ailleurs.
Et ces cercles vont militer pour une instruction gratuite, obligatoire et républicaine pour les deux sexes.
Oui, laïque aussi, je rajoute. Mais pas seulement, ils vont créer des bibliothèques, des écoles, des cours publics pour adultes. Victor Hugo sera président du Cercle parisien en 1872 et Jules Ferry, ligueur, deviendra ministre de l'Instruction publique. Autrement dit, sans la Ligue, la loi de 1881 qui instaure la gratuité de l'enseignement primaire et celle de 1882 sur son caractère obligatoire n'aurait peut-être pas vu le jour.
Et au XXe siècle, alors, Libye?
Alors, au XXe siècle, la Ligue devient une gigantesque organisation culturelle, dissoute en 42 par le gouvernement de Vichy. On lui doit pêle-mêle les coopératives scolaires, les éclaireurs de France, les auberges de jeunesse, des colonies de vacances et le Salon européen de l'éducation, auquel aucun ministre de l'Éducation nationale n'échappe.
Même pas nous.
Même pas nous. Et après 68, avec l'avènement notamment, j'accélère, des 30 Glorieuses et de la montée de l'individualisme, la Ligue enchaîne les crises d'identité plus ou moins fortes. Vous le racontez de façon assez subtile dans ce livre et vous le démontrez. Aujourd'hui, écrivez-vous Jean-Michel Dian, c'est une hydre confédérale, 25 000 associations, une mosaïque d'initiatives et d'associations qui n'ont pas ou peu beaucoup de lisibilité ou d'audience. Alors, la Ligue, suggérez-vous, est un tournant, mais encore hein.
Mais encore, c'est de découvrir en permanence, moi-même qui aurais dû peut-être, il y a bien longtemps quand j'étais rédacteur en chef du Monde de l'Éducation, m'intéresser encore plus à ce mouvement. J'ai découvert en faisant ce livre et ce film, puisque ça donne également un film, quelque chose d'inouï. Vous évoquiez les lois Ferry de 80-82, mais j'ajoute deux lois essentielles qui aujourd'hui sont d'actualité, c'est la loi 1901 et la loi de 1905. Savez-vous que celle de 1901 a été imaginée par un certain Léon Bourgeois, prix Nobel de la paix quand même, président de la Ligue de l'enseignement? Savez-vous que c'est Ferdinand Buisson qui a écrit le premier texte de loi de la séparation des églises et de l'État? Ferdinand Buisson, prix Nobel de la paix, président de la Ligue de l'enseignement. On continue, Jean Zay, le Front Populaire, qu'est-ce que c'est? Ce sont des ligueurs. C'est-à-dire qu'on est en face, comme vous le disiez très justement, un continent. Et ce continent, il existe encore, il est différent, il ne sait pas communiquer, on ne sait pas où sont les gens, on ne sait pas comment nos enfants participent de près ou de loin, mais ils existent. Ils existent dans la philosophie qui a animé son fondateur, à savoir Jean Massé.
Alors, le livre vient de paraître jeudi, le film c'est pour bientôt, on tiendra nos auditeurs au courant. Un mot avant de revenir sur la problématique soulevée par Libby, sur l'incroyable patrimoine que vous mettez en avant dans cet ouvrage, qui est un beau livre, des illustrations, des écrits, mais aussi beaucoup de documents historiques, des caricatures, des photographies. Comment avez-vous retrouvé ce patrimoine? Comment avez-vous fait ces choix?
Alors écoutez, les choix, ils étaient assez faciles à faire, d'autant plus que les archives de la Ligue ont été perdues pendant très longtemps. Et c'est l'actuel secrétaire général Jean-Marc Roiran qui, à l'occasion d'un voyage à Moscou, les a retrouvés. Incroyable. En fait, les Allemands les avaient piqués. Et en fait,
vous le racontez très bien.
Voilà, donc c'est toute cette histoire, ça s'est passé entre Moscou et Berlin, peu importe, à un moment donné, elles reviennent en France à la demande justement de Jean-Marc Roiran, et elles sont enfin installées aux archives nationales, où elles auraient dû être. Qu'est-ce que j'ai fait, comme d'autres ont fait et feront, à savoir, on passe un petit moment avec ces archives, c'est une belle complicité, et là, on picore, mais alors, c'est vraiment du pain béni.
Je vais d'ailleurs donner deux exemples que j'ai retenus parmi tant d'autres, parce qu'il faut bien choisir, on n'a pas beaucoup de temps. Alors, notamment une lettre d'un inspecteur d'Académie de Montpellier qui appelle à voter pour Bonaparte, c'est assez,
c'est extraordinaire,
assez délicieux. Et puis un autre document qui date du 22 juin 1933 qui illustre la bataille de la Ligue contre un avis du Conseil d'État concernant l'utilisation des locaux pour le périscolaire, mesure contre laquelle se battent avec férocité les instituteurs. Donc, petit clin d'œil à l'actualité aussi.
Non, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un vrai combat. Alors, il y a eu le combat avec l'Église, évidemment, qui domine un peu tout ça. Mais le combat laïque, c'est-à-dire l'idée que l'école est installée au centre de vie des gamins, des parents et de l'État, de la République. Ça, franchement...
Il est fondamental, éloquent et presque éloquent. Exemplaire.
Mais ça donne des frissons par moment de voir ces gens se battre pour une école de la République.
Absolument. Justement, au regard de débats actuels, si vous voulez, quand on parcourt votre livre, ça fait un écho assez fort par rapport à aujourd'hui. Et ça pose évidemment, ça nous renvoie à ce débat sur la laïcité, ces deux conceptions, ou peut-être plus d'ailleurs de la laïcité aujourd'hui qui clive à gauche notamment. Et donc, quelle est la position aujourd'hui de la Ligue qu'on n'entend pas beaucoup, ou qu'on entend plutôt derrière sur cette conception de la laïcité sur laquelle qui fait débat, et notamment, me semble-t-il qu'à une époque, elle s'était rapprochée de Tariq Ramadan, alors depuis elle a fait amende honorable, mais enfin quand même, en 2015, l'année dernière, elle a à nouveau reçu Tariq Ramadan, donc ça a fait débat.
Oui, ça fait débat.
On n'en parlait pas dans le livre, mais moi,
dès qu'on touche au mot laïcité, maintenant, on a l'impression d'appuyer sur un cocktail Molotov. Donc c'est...
Voilà, mais sans...
Mais la réalité, elle est beaucoup plus simple, c'est que c'est en fait un mouvement qui a eu l'habitude, la tradition de brasser les idées de la laïcité. Et donc, par nature, ils sont portés à l'ouverture. Ils sont plus proches de Bianco que d'autres, les laïcars forcenés. Donc,
pour replacer ça dans les débats très contemporains,
voilà. Donc, par exemple, ils se sont mobilisés, et ça a marché d'ailleurs, pour réhabiliter l'Observatoire de la laïcité présidé par Bianco, tout simplement parce que Manuel Valls l'avait montré du doigt. Donc il y a quand même, avec la Ligue de l'enseignement, avec le mouvement laïque, la franc-maçonnerie aussi, c'est pas non plus délié d'un grand mouvement d'esprit et libertaire et républicain, il y a quand même l'idée d'un mouvement qui continue à asseoir sa souveraineté sur la laïcité. Ça, c'est une réalité quotidienne.
Mais sur une conception très différente des origines.
Oui.
Très différente.
Oui, mais
et très éloignée.
C'est vrai, mais regardez la question de Jean Massé, qui est de dire « je me bats pour que le suffrage universel existe, certes, puisqu'il a été inventé juste en 1848, mais avec des gens qui peuvent voter, mais qui sont instruits. C'est-à-dire que l'idée de se battre contre l'ignorance, moi je trouve que c'est toujours d'actualité.
Alors
justement, qu'aujourd'hui, on a envie que l'école participe à fabriquer un esprit critique, de permettre à des gamins de pouvoir poser les bonnes questions, puis à un moment donné, à 18 ans, de voter.
Alors justement, sur l'école, l'instruction et l'ignorance, l'éducation populaire, qui est donc un héritier de la Ligue, est plutôt en berne aujourd'hui, alors que c'est un instrument formidable pour ouais. Évidemment,
c'est une très belle histoire à raconter, parce que l'éducation populaire est morte avec la Ve République. Elle est morte et en même temps elle existe, c'est-à-dire qu'il y a toujours autant d'associations.
Il y a encore des colonies de vacances, des associations, de l'encadrement de la jeunesse.
En même temps, c'est une conception de Jean Zay, justement, oui. Qui est de dire que l'éducation, et de Philippe Mérieux aussi, qui développe ça très très bien, Robin Annucci aussi, c'est d'ailleurs l'idée que l'éducation...
Dans le livre, ils ont...
Oui, c'est à la fois l'école et c'est à la fois le parascolaire, c'est-à-dire, comme vous dites, Louise Touré, à savoir les colonies de vacances, l'idée d'aller se former au-delà dans les ciné-clubs. Les ciné-clubs, c'est la Ligue de l'enseignement qui les a inventés quand même, c'est incroyable. Et que toutes ces petites activités qui entourent l'école font partie de l'éducation du citoyen. On a en 59, quand Malraux est arrivé, tranché. Malraux a inventé les maisons de la culture, a inventé l'art dans l'appareil républicain. Et l'éducation populaire a été dévalorisée automatiquement. Et ça n'a fait que continuer. L'éducation populaire qui pourtant a été remise à l'ordre du jour, quand François Hollande est arrivé, on l'oublie, le premier ministère, l'éducation populaire de la vie associative, c'est François Hollande en 2012. Eh bien, il n'y a plus les intitulés. On a déjà oublié. Et pourtant, la gauche, elle est de ce côté-là. Elle est là, dans le mouvement associatif, dans la société civile. Et les instits ont toujours été des militants de l'éducation populaire. Sauf qu'elle n'est pas reconnue. Elle n'est pas légitime. Elle n'est pas financée. Et puis, la société de consommation a fait le reste.
Et est-ce que cette politisation de l'éducation populaire n'a pas été aussi un frein dans un monde contemporain où ça paraissait moins pertinent de choisir son camp dans ses activités de loisirs et avec ses enfants ? Avant, il y avait les scouts laïcs, les éclaireurs, les scouts catholiques. Bon,
tout ça fait ringard.
Chacun choisissait
ça
un petit
ringard.
Peu
oui, on choisissait. Et aujourd'hui, on ne choisit rien. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans cette offre-là. Et pourtant, il y a toujours une activité dense, active, de l'éducation populaire. Mais c'est pas la même. C'est celle qui se bat dans le système environnemental, c'est celle qui se bat contre le libéralisme. C'est totalement autre chose. C'est très, très atomisé et c'est pas fédéral.
Voilà qui nous donne une bonne idée, faire une émission sur l'éducation populaire. Je sais aussi que Jean-Michel Dian, vous ferez des émissions avec Emmanuel Laurentin sur la Ligue de l'enseignement. Après tout, c'est toute une histoire. Je rappelle le titre de votre livre, L'utopie citoyenne, une histoire républicaine de la Ligue de l'enseignement. Et c'est publié à La Découverte.
Merci.
J'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine à 17h15 sur France Culture. À 18h, aujourd'hui, ce sera le journal de la rédaction, suivi de Dimanche et après d'Olivia Jesbert. Et pour l'heure, place au rendez-vous de la justice et du droit, Le Monde selon Antoine Garapon. Excellente soirée sur France Culture.